Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren.
On attend tous de sortir de la situation dans laquelle on est. Peut-être y a-t-il d'ailleurs quelque espoir. En tout cas, l'économie française, selon le FMI, va connaître cette année un rebond de 5,8%. Une prévision revue à la hausse par rapport à janvier est supérieure au taux de croissance projeté pour l'Europe. Alors nous devrions faire un petit peu moins que l'économie mondiale, mais mieux en tout cas que la zone euro. Voilà qui donne à espérer. Il y a d'autres sujets dans l'actualité économique que l'on va peut-être regarder avec Maurice de Kervé-Noël, ancien chef d'entreprise dans de grands groupes industriels, et qui publie aujourd'hui des sagas. Il était venu d'ailleurs nous en parler, la saga sur l'Algérie, puisqu'il a fait la guerre d'Algérie, ça l'a beaucoup marqué. Également sur la Bretagne, à travers aussi une histoire familiale, la Bretagne à laquelle il est très attaché, comme son nom l'indique, et je n'ai même pas besoin de le préciser. Mais il y a aussi d'autres éléments qui vont retenir notre attention, notre attitude par rapport à la pandémie, et puis aussi par rapport à un certain nombre de sujets qui sont dans l'actualité. L'euthanasie, par exemple, qui arrive à l'Assemblée bientôt. Maurice de Kervé-Noël, sur tout cela, a un avis et il va nous le faire partager. Bonjour Maurice de Kervé-Noël.
Bonjour Louis.
Bon, vous êtes toujours fringant, à 84 ans.
Bon pied, bon oeil.
Vous avez eu le Covid alors que vous étiez vacciné.
Oui, tout à fait. J'ai eu une espèce de gros rhume. Alors en général, moi, mes rhumes durent 2-3 jours. Et là, je trouvais qu'au bout de 5 jours, ils ne s'arrêtaient pas. Donc j'ai été me faire tester. Et ouais. J'ai découvert que j'étais positif. Alors j'ai eu une forme extrêmement allégée. Et ça s'est bien passé. Ni perte d'odorat, ni perte de goût. Et on m'a dit que c'était assez classique que s'appelle le Pfizer, le vaccin.
Pfizer, alors, oui, que vous avez eu.
Pfizer, mm-hmm. Cherchait son nom, ouais. En fait. Vous protégeait, mais vous protégeait à 90% et qu'on pouvait quand même choper le Covid, mais une forme atténuée. Donc voilà, donc je m'en suis très bien sorti et sans problème.
Et ça a duré donc quelques jours.
Ça a duré une semaine.
Mmh. Et vous ne vous êtes pas senti en danger ou...
Non, pas du tout.
Non, psychologiquement non plus.
Non, pas du tout, parce que au début, tout du long, d'abord, j'ai pensé que c'était un rhume, et puis quand j'ai appris que j'étais positif, il était déjà sur la pente descendante. Bon, j'ai fait attention de ne pas contaminer les gens, d'observer les distances barrières, etc. Donc, donc c'était sans problème. Mais enfin, il faut le savoir. Il ne faut pas faire n'importe quoi, ce que j'ai quand même parfois un petit peu fait. Quand on est vacciné, on n'est quand même pas totalement immunisé.
On ne sait pas d'ailleurs, à vrai dire, on a assez peu d'informations. Est-ce qu'on peut effectivement être vacciné et transmettre le virus? Est-ce que le virus vous atteint quand même? C'est votre cas alors que vous étiez vacciné? À vrai dire, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir sur le sujet.
Non, et quand on demande ce que j'ai fait, ils ne savent pas bien non plus vous répondre.
Quel que soit le vaccin d'ailleurs.
Oui, absolument.
Vous aviez le choix de votre vaccin?
Non, pas du tout. J'ai été vacciné assez tôt et j'ai été vacciné fin janvier. Et donc ça s'est à Pasteur et ça s'est fait sans problème.
Est-ce qu'à votre avis, il faut vacciner les enfants? On en parle en ce moment.
Moi, je serais plutôt favorable parce qu'il y a une transmission possible. Et je vois, moi, mon petit-fils qu'on a en ce moment en séjour à la maison. L'école nous a envoyé un mail pour nous dire qu'il y avait une enfant de la classe qui avait été prise par le Covid et que, en fait, la classe était devenue cas contact. Et c'était la voisine de mon petit-fils. Donc, je pense qu'il faut faire attention.
Alors, Maurice de Kervé-Noël, vous qui avez un regard sur pas mal d'éléments de l'actualité, de l'histoire aussi, comment resituer l'époque que nous vivons? Quand on parle, par exemple, du rebond de l'économie française, il y a une forme d'espoir qui est au bout du chemin. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme-là, mais c'est l'enthousiasme de quelques chiffres, de quelques prévisionnistes? Est-ce que vous l'accréditez?
Alors, si vous voulez, il y a deux écoles. Vous avez des économistes comme Patrick Artus, qui sont plutôt pessimistes, et des économistes comme Daniel Cohen, qui sont optimistes. Moi, je me range dans les optimistes. D'abord, il y a eu, au troisième trimestre, un rebond que personne n'avait prévu, de 18%, et qui a pratiquement, à 90%, rattrapé le retard des deux trimestres. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même une capacité de rebond. Ensuite, je pense que on injecte beaucoup d'argent, que ce soit en France mais aux États-Unis, et tout ça va contribuer à tirer l'économie. Il y a ensuite des facteurs psychologiques. Facteurs psychologiques, quand vous voyez à la télévision les Français qui vont dehors, qui s'amassent, qui n'observent pas les gestes barrières, c'est révélateur, à mon avis, d'une immense frustration, de manque de joie de vivre. Et donc, comme en 1919, et surtout après la grippe espagnole, il y a eu une frénésie de joie, de consommation, Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'à l'époque, ça s'est accompagné du développement de l'électricité et de l'automobile. Et aujourd'hui, ça va s'accompagner du développement de l'informatique, du net, du télétravail. Donc je pense qu'il va... Et en plus, vous savez que les Français sont les champions de l'épargne, ils n'ont jamais autant épargné que pendant cette période de crise sanitaire. Ils vont tirer sur leur bas de laine. Et donc tous ces gens qui rêvent, moi-même je l'éprouve, si vous voulez, le sentiment d'avoir envie de retourner au restaurant, de revoir des amis, de voyager. Et quand on a toutes ces envies et qu'on a été frustré, on dépense. Et je pense que ça va être un facteur de l'économie importante. Et puis, il y a un point que personne n'évoque, et que moi je considère comme important. Quand la crise est arrivée, moi j'ai immédiatement dit dans mon entreprise, Laurent Perrier, la première chose à faire... Surveillons la trésorerie. Et donc, on a tout fait pour avoir un bas de laine, parce qu'on ne savait pas combien de temps la crise pouvait durer, qu'on voulait être sûr que dans les 2-3 ans qui viennent, on tiendrait. Donc, les entreprises ont des trésoreries importantes, et je pense qu'à la sortie de la crise, et notamment dans la grande consommation, dans le luxe, les gens vont investir en publicité, vont investir dans des promotions et autres, pour relancer l'économie. Et donc, je pense que tous ces facteurs mis ensemble font qu'il y aura un vrai rebond. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du chômage, parce qu'il y a des catégories très difficiles.
On prévoit une casse sociale quand même importante.
Voilà. Alors, on risque d'avoir un gros chômage. Vous savez, moi, quand j'étais président de Cronenbourg, pour connaître le métier, j'ai acheté un restaurant et je l'ai géré pendant 7 ans pour apprendre, être sûr de savoir de quoi je parlais. J'imagine aujourd'hui que j'aurais encore mon restaurant. J'avais 10-11 salariés. C'était l'horreur. Il aurait fallu que je continue à payer les loyers, etc. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse dans ce type de métier, comme dans le tourisme. Mais donc, le chômage, je ne peux pas faire de prédiction. Mais l'économie elle-même, moi, je pense qu'on va assister à un très fort rebond, particulièrement en France.
On a l'impression, Maurice de Kervenoël, qu'il y a toute une économie de la proximité en particulier. D'ailleurs, c'est aussi vrai en France qu'en Allemagne, avec beaucoup de boutiques, par exemple, ou d'enseignes, qui étaient gérés par une même famille depuis des générations et qui aujourd'hui sont obligés de fermer. Ça, c'est quand même un phénomène nouveau et ça se fait au profit des plateformes, finalement, d'une économie assez invisible et mondialisée qui arrive, en fait, à mettre le grappin sur tout ce que les autres possédaient.
Oui, mais malheureusement, je crois que ça, on ne peut rien faire, si vous voulez. Moi, j'ai assisté à la naissance, j'étais à l'époque un jeune vendeur dans le groupe Colgate-Palmolive, et le développement des grandes surfaces, ça a été un nettoyage effrayant du petit commerce. Et je me rappelle, on voit Leclerc, qui est un groupe énorme, je me rappelle un magasin qui démarrait, qui n'était pas grand, il y avait un télégramme affiché en gros, et qui était signé Édouard Leclerc et qui avait marqué « Au Laker, bas les prix ». Et donc, à l'époque, cette dynamique de prix a littéralement tué toute une série de petits commerces familiaux qui étaient des épiceries où travaillaient le père, la mère, la fille. Mais bon, il y a eu une adaptation douloureuse, mais il y a eu adaptation.
Mais vous regardez les choses avec une certaine, un regard un peu de fatalité. C'est-à-dire, vous estimez que ça fait partie de l'économie moderne aujourd'hui que de sacrifier l'économie familiale?
Je pense
pourtant,
que...
ça va un petit peu à rebours de ce que vous écrivez, des sagas que vous écrivez, qui sont des histoires familiales aussi.
Oui, mais je pense, si vous voulez, que ça, c'est le rôle des pouvoirs publics d'accompagner cette évolution. Et ça peut être aussi le rôle des grands groupes de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi. Mais je pense que vouloir empêcher des évolutions inéluctables... moi, je me rappelle chez Hermès, au début, j'ai dirigé le groupe Hermès, quand sont apparus les Sephora et autres magasins... Hermès Parfum, on trouvait ça choquant. On rêvait des boutiques anciennes. Et moi, je leur ai dit, inutile de se battre contre des évolutions qui vont arriver comme nous, on l'avait connu dans la grande consommation.
Donc l'évolution, ça va être une centralisation toujours plus grande du commerce vers des plateformes.
Oui, mais en même temps, il y aura des commerces très pointus, particuliers, qui resteront. Mais je pense que l'achat de masse, il se fera sur des plateformes.
Le luxe n'est pas menacé. C'est aujourd'hui un perdant de la crise, quand on regarde les chiffres. Mais il n'est pas menacé. Les perdants, c'est l'économie pétrolière, c'est effectivement le luxe aujourd'hui. Pas la grande distribution, elle est plutôt gagnante.
Oui.
Le luxe, ça va redémarrer.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le champagne, et qui, je pense, est révélateur de la situation sociale, c'est que ça n'est pas le haut de gamme dans le champagne qui a souffert. Les cuvées très chères ont continué à se... Bon, elles ont un peu souffert, mais elles ont continué à se vendre parce que les gens qui ont du pouvoir d'achat l'ont gardé. parce que la bourse a été bonne, etc. Ce qui a terriblement souffert, ce sont les classes moyennes et les classes populaires, en fait. Et donc, ce sont les premiers prix qui ont souffert en Champagne.
Donc ça, c'est un étalon qu'en fait, tout le monde n'est évidemment pas égal devant une crise. Hein.
Non, non.
Ça, c'est quand même une réalité. Quand vous regardez, vous confirmez le fait que le secteur du luxe ne sera pas touché de la même manière que celui des transports, par exemple, qui a vécu une année noire, ou celui de, je le disais à l'instant, le pétrole, par exemple, qui est appelé aussi à pas mal de remises en cause écologiques.
Oui, c'est sûr. Surtout que le luxe a un côté ludique. Et donc, si, comme je le crois, on assiste à une frénésie de consommation, de joie de vivre, de rattrapage, le luxe participera à ce retour de la vie, si je puis dire.
Que pensez-vous, Maurice de Kervenoël, de ceux qui vous disent, finalement, cette pandémie, c'est aussi une chance qui nous est donnée de redécouvrir une forme d'intériorité, de sobriété, et donc d'opérer aussi un virage vers un autre modèle de société?
Ben, tout à fait.
C'est une illusion pour vous?
Oui. Je vais revenir une minute en arrière sur la pandémie, parce qu'on croit toujours que les choses sont nouvelles. Moi, il se trouve que je ne suis pas un perdreau de l'année, et j'ai vécu comme enfant le début de la guerre de 40, ce qu'on a appelé cette période...
La drôle de guerre.
Cette période indécise où la guerre avait été déclarée en août 39 et jusqu'au mois de mai 40 où la Wehrmacht a déferlé sur le pays, il ne s'est rien passé. Et moi, ma famille s'était réfugiée dans une propriété à la campagne. Et ça, au mois de mars, quand moi je me suis confiné en Bretagne, j'ai retrouvé des sentiments d'enfance. On était là, en famille, relativement heureux. On a assisté à tout le déroulement des saisons, le printemps, l'été, etc. Et c'est exactement la même chose. Et comme enfant, on sentait une crainte diffuse, croissante des parents. Et en même temps, il y avait, comme dans cette époque, plein de fake news. On voyait partout des espions. Et je me rappelle, j'avais été terrifié enfant parce que pas loin de la maison, on avait vu une bonne sœur se raser dans les bois. Et en fait, c'était un espion allemand. Et il y avait sans arrêt alors des nouvelles comme ça terrifiantes. Et petit garçon, je m'en rendais compte et j'ai senti l'inquiétude croissante des parents. Et donc, l'arrêt par la pandémie m'a énormément rappelé cette époque-là.
La drôle de guerre.
La drôle de guerre, oui.
Et pourtant, il n'y a pas d'armée au bout du chemin.
Non.
Il y a une armée, un virus invisible.
Un virus invisible, mais qui frappe.
Qui frappe, c'est vrai, à l'aveuglette, mais qui frappe modestement aussi. Ce n'est pas la peste non plus, comme le disent
beaucoup
d'observateurs. Mais...
Vous savez,
c'est pas non plus une guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des répercussions mondiales, mais on n'a pas le sentiment non plus d'être dans une conflagration terrifiante.
Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Il se trouve que j'étais ami du professeur Jacob, prix Nobel, et le professeur Jacob, un jour où on déjeunait ensemble, m'avait dit « Maurice, c'était en 1990, on va assister à des pandémies mondiales de plus en plus importantes et nombreuses. Parce que vous avez des populations dans des pays reculés, en Asie, qui vivent depuis des millénaires avec la proximité des bêtes. Et les voyages, le tourisme, le voyage d'affaires, etc., vont amener des Occidentaux à se trouver en contact de ces populations et en contact de ces bêtes, sans eux avoir été mitridatisés par des siècles de contact avec ces animaux. Et vous allez voir, il y aura des pandémies dramatiques. Ça, c'était en 1990. Et donc, je pense qu'il y en aura d'autres et qu'il faut vivre avec.
C'est une prédiction qui s'est réalisée.
Voilà, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Il faut accepter que nous sommes mortels et qu'il peut y avoir des choses. Parce que notre société veut gommer la mort, mais qu'en fait, il faut vivre avec.
Alors, dites-nous, Maurice de Kervenoël, précisément, il y a une actualité aujourd'hui, cette semaine, sur la question de l'euthanasie, de la fin de vie. Ça paraît, c'est vrai, entrer un petit peu en conflit avec tout ce qu'on a pu entendre sur la façon dont les personnes âgées étaient traitées dans les EHPAD. Quelle appréciation portez-vous là-dessus?
Moi, je suis très proche de ce qui a été dit par, vous savez, Leonetti, l'homme qui a fait la loi. Je pense que le mot clé, c'est il faut aider les gens à mourir et non pas les faire mourir. Je pense que ça résume, moi, profondément ma pensée. Il se trouve que j'ai perdu deux frères, mon frère aîné, mon frère cadet, les deux dernières années. Et l'un comme l'autre ont été merveilleusement assistés dans leur fin de vie. Notamment, mon jeune frère était dans un établissement de soins palliatifs, Garnier. Et jusqu'à la fin, il a été encadré, on l'a sorti dehors, il regardait des marronniers, etc. Et il s'était paisiblement. Et donc moi, je crois qu'une des réponses, c'est un fort développement des soins palliatifs. Et il faut aider les gens à mourir plutôt que de les faire mourir. Parce que pour la société, si on commence à franchir ce tabou d'accepter que la société puisse faire mourir les gens, c'est à mon avis un risque énorme. C'est un peu ce que disait Houellebecq dans un article dans le Figaro hier.
C'est aussi déléguer à une institution le fait de donner la mort. Et ça, c'est quand même problématique aussi.
En plus, c'est nous, sur le plan de nos valeurs chrétiennes, ça va tout à fait à l'encontre de ce que nous pensons.
Et pourtant, on n'a pas le sentiment que les soins palliatifs soient l'argument ultime, en tout cas que ce soit entendu comme tel.
Oui, je sais bien. Mais quand on l'a vécu soi-même, moi, quand on a vu son, j'ose pas dire mon petit frère, puisqu'il avait 76 ans, mais un proche disparaître, ben, quand on le voit disparaître dans le calme, la dignité, la sérénité, encadré d'infirmières gentilles, etc., ben, ça fait quand même une différence fondamentale.
Le projet de loi ici porte sur les pathologies incurables.
Oui.
Le fait de souffrir déjà et d'avoir une pathologie incurable. C'est le rapport à la souffrance qui est problématique.
Ben, je pense que si les sondages sont favorables, c'est que les gens, basiquement, ont peur de la mort et peur de la souffrance. Et donc, si on réussit à aider, à apaiser les souffrances, même à la limite faire dormir jusqu'à la mort, ce que disait Leonetti, je pense que c'est la solution. Et moi, je pense que le rôle des pouvoirs publics, ce serait d'investir pour développer les soins palliatifs.
En regardant ce que vous avez écrit, Maurice de Kervé-Noël, je m'aperçois que le point commun, c'est peut-être finalement la guerre. Parce que là, votre dernier roman s'appelle « La ferme des Engoulevents » et ça nous emmène dans la saga de quatre femmes dans la guerre. Vous avez aussi beaucoup écrit sur la guerre d'Algérie que vous aviez fait comme sous-officier à l'époque, hein, n'est-ce pas, quand vous étiez, ce rapport à la mort, je me souviens, on avait une belle discussion sur le sujet. Vous disiez, il y a deux choses dans la vie qui comptent, l'amour et la mort, en fait.
Tout à fait. Héros et Thanatos.
Voilà. Et vous avez vécu ces deux aspects-là des choses. Finalement, est-ce qu'on devient un être humain digne et respectable si on n'a pas vécu ces deux choses-là?
C'est une bonne question. Je vais citer un homme que je n'aime pas par ailleurs, mais dont je pense que la phrase était assez pertinente. Mussolini disait « La guerre est à l'homme ce que la maternité est à la femme ». Et c'est sûr que, moi, si vous me permettez l'expression, à HEC, j'étais un jeune branleur, aimant vivre, rigoler, tout m'avait été facile. Et d'un seul coup, j'ai été confronté à la guerre, ça m'a à la souffrance, à la torture que j'ai refusée, enfin à beaucoup de choses. Et ça a été une expérience qui m'a littéralement transformé. Ça a été, comme diraient les Romains, ma toche prétexte, je suis devenu adulte. Et ça a fait profondément écho à mon enfance, parce que la guerre, je l'ai quand même connue de 1939 à 1945. 6 ans, quand à un âge qui vous marque, sont des choses importantes. Et donc, je pense que ça a été vraiment une expérience dominante dans ma vie.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on est dans une société où les jeunes officiellement, ne sont plus appelés à préparer la guerre et n'ont pas du tout la guerre dans la perspective de leur existence.
Oui, et ils ne se rendent pas compte non plus que l'Europe qu'on critique tant a été un facteur de paix fantastique. Hein. N'oublions pas que depuis Louis XIV, il y a eu des tensions, pour ne pas dire des guerres permanentes avec l'Allemagne, et que quand on regarde une histoire récente, 1870, 1914, 1914, on s'est payé quand même 3 guerres avec des Allemands. Moi, j'ai vécu en Alsace, il y a des gens qui ont changé 5 à 6 fois de nationalité au cours de leur vie, Allemands, Français, re-Allemands, re-Français, et depuis qu'il y a l'Europe, il peut y avoir des tensions et autres. Et je trouve ça très intéressant de noter qu'à peine l'Angleterre sort-elle de l'Europe, qu'on commence déjà à avoir des réactions d'hostilité mutuelle entre Anglais et Européens. Donc ne regardons pas, à mon avis, les faiblesses de l'Europe, qui c'est sûr, qui est bureaucratique, lourde, etc., mais l'immense paix qu'elle nous apporte. Alors, une des choses que je regrette, moi, c'est l'abandon du service militaire. Quand Chirac a décidé de le faire, il se trouve que je connaissais à l'époque le ministre et j'ai été le voir. Et je lui ai dit, vous savez, si vous supprimez le service, je pense qu'il y aura des conséquences lourdes. Parce que pendant le service militaire, on reçoit des gars de banlieue, on les forme, on leur apprend à conduire, on leur apprend à lire s'ils ne savent pas lire, on leur inculque un certain nombre de valeurs de la République et de la France. Et le jour où vous ferez ça, ben vous aurez des difficultés. Et il y a eu des difficultés, des voitures brûlées. Alors, et il m'a dit à ce moment-là, c'est une promesse électorale de Chirac, on ne peut pas revenir dessus, je suis d'accord avec vous, mais le train est parti. Et je pense que c'est très dommage, parce qu'il y aurait une forme de service civique, pas forcément de préparation à la guerre, on aurait probablement beaucoup moins de problèmes en banlieue, et il y aurait un côté justice sociale, parce que ça permettrait de remettre à niveau un certain nombre de jeunes qui n'ont pas le bac, etc.
Ces femmes dans la guerre dont vous parlez, Maurice de Kervé-Noël, il y a une leçon à en tirer de leur attitude ?
Oui, le courage. Ce sont des femmes extrêmement différentes, puisqu'il y a une grande bourgeoise qui, par certains côtés, ressemble à ma mère, une protestante très engagée, très protestante et très gaulliste, alors que la première était plutôt pétiniste. Il y a une femme dont la famille, ce sont des francs-maçons, elle est athée, et puis il y a une jeune juive brillante, fille d'un galliériste de renom.
Vous avez pris quatre archétypes, en fait.
Voilà, et quatre femmes. Mais je dirais d'une certaine façon que j'ai toutes rencontrées. Pas intégralement, bien sûr, parce qu'il y a une part d'imagination. Et ces quatre femmes, petit à petit, bon, elles s'étaient connues, parce que toutes avaient un point commun, elles aimaient le dessin, et elles s'étaient rencontrées à la Grande Chaumière pour prendre des cours de dessin. Et petit à petit, au fur et à mesure de la guerre, ben, en oubliant leurs clivages sociaux, leurs opinions politiques, même leurs mœurs, puisqu'il y en a, il y a même deux homosexuels, elles ont progressivement compris ben, où était leur devoir, lutter contre l'envahisseur, et tout en préservant leur famille.
Donc l'idée, c'est en fait aujourd'hui de restaurer une unité de la société qui vous semble aujourd'hui mise à mal de tous les côtés, tous les séparatismes en fait.
Oui, et puis, alors là c'est très personnel, je dirais une certaine apologie de la femme, parce que moi je suis un cas particulier. Mon père était officier de marine et sous-marinier, et à partir de 1938, on ne l'a plus vu à la maison. Il était sur l'eau et surtout sous l'eau. Et donc j'ai été élevé par des femmes, ce qui était rare à l'époque. J'ai été essentiellement élevé par ma mère, mais un peu par ma grand-mère et mes sœurs. Et donc j'ai eu le sentiment que les femmes étaient aussi efficaces que les pères de mes petits copains, mais qu'elles avaient une autorité douce. Et ce qui m'a amené très tôt à prendre dans mes comités de direction et plus tard dans mes conseils d'administration des femmes. Et donc c'est un peu une apologie de la femme et du rôle. On oublie complètement, si vous voulez, le rôle qu'on jouait. Elles ont joué un rôle considérable dans la résistance. Je me suis appuyé sur un livre qui s'appelle L'Arche de Noé, d'une femme qui s'appelle Madeleine Fourcade. Madeleine Fourcade, peu de gens savent qu'elle a eu un réseau de 2 à 3 000 résistants qui s'appelait L'Arche de Noé. Ça a été des femmes fantastiques. On en parle peu, il y a plusieurs homosexuels qui ont joué un rôle fondamental dans la résistance. Les protestants ont très vite viré gaullistes, enfin beaucoup, une majorité. Et donc, si vous voulez, c'est un peu une apologie, si je puis dire, du rôle de la femme et du luttons ensemble.
Un hommage que vous voulez leur rendre à travers cette saga. Ouais. S'il y avait encore une idée d'histoire à écrire, Maurice de Kervé-Noël, puisque vous avez la plume
facile. Je n'ose pas dire que je souffre d'incontinence épistolaire, mais je vais m'écrire.
En un mot. Bon, il y aura beaucoup d'histoires. Je voulais vous interroger sur l'Algérie aussi, que vous connaissez bien. Il y avait de l'actualité aussi sur le sujet, mais on aura l'occasion de se revoir occasion.
Avec joie.
Merci d'avoir été des nôtres, Maurice de Kervé-Noël. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.